Cisco vous présente Dialogue, la chronique des nouvelles technologies par Jérôme Colombin et François Sorel.
Bonjour, bienvenue dans Dialogue, c'est bientôt l'été et le train de la high-tech continue de plus belle. Bonjour François Sorel.
Et il va, comme chaque semaine, à plus de 300 km/h. Bonjour Jérôme. Toute l'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les mardis en téléchargement gratuit sur le net.
Et au sommaire cette semaine, François.
Jérôme, regarde un petit peu dans ta poche, il ne te manque rien.
Ah, ciel, mon portable.
Oui, j'avais envie de te piquer ton vieux Nokia de 1994.
Alors c'est pas grave parce que de plus en plus les opérateurs font des efforts pour que on bloque les téléphones à distance, pour qu'on ne puisse plus s'en servir et pour que le vol de portable ne soit qu'un mauvais souvenir.
On en parlera avec la directrice de la communication de l'AFOM, qui est l'Association française des opérateurs mobiles. On évoquera avec elle aussi la sécurité routière et le téléphone portable.
Téléphone mobile encore avec le marketing sur les portables. La publicité par SMS, par MMS, ça se développe de plus en plus.
Recevoir un petit SMS pour avoir une réduction, recevoir une vidéo publicitaire, pourquoi pas ? Dans quelles limites ? Et après avoir vécu le spam sur notre boîte email, est-ce qu'on va vivre la même chose sur son téléphone portable ? On va poser la question à un spécialiste tout à l'heure.
Enfin, les particuliers peuvent désormais déposer leur nom de domaine en .fr. Toi qui rêvais d'avoir ton site perso.
Ah, j'imagine un françoissorel.fr comme ça, tu
ça fait rêver en lettres d'or sur le net.
Superbe.
Et on en parle dans un instant.
Donc on fera le point sur le .fr, c'est ça ?
C'est ça. Donc on parle tout de suite du vol des téléphones portables, François. Tu sais qu'aujourd'hui, 8 Français sur 10 sont immobiles.
Alors c'est énorme, hein, ça représente plus de 40 millions de Français. Mais paradoxalement, le nombre de téléphones portables volés l'année dernière a baissé par rapport à l'année 2004.
C'est une bonne nouvelle.
Alors que parallèlement, bien sûr, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a augmenté.
Cela dit, il y a encore des vols, même parfois des vols avec violence, ce qui n'est pas franchement rigolo. Donc quand on se fait piquer son portable, eh bien, il y a aujourd'hui des moyens de se prémunir. On peut le faire bloquer à distance. Ça, ce sont les opérateurs de téléphonie mobile qui ont mis ça en place. C'est plutôt pas mal.
Voilà, et évidemment, si le mobile est bloqué, c'est complètement dissuasif. Ça ne donne plus envie aux voleurs de faire quoi que ce soit. On va en parler avec Dominique Martin, Jérôme, qui est directrice de la communication de l'AFOM.
Bonjour.
Alors concrètement, que faire lorsqu'on se fait voler son téléphone mobile ?
Alors, si on se fait voler son portable, c'est mieux d'avoir anticipé et d'avoir tout d'abord, une fois qu'on l'a acheté, noté son numéro d'identité, ce qu'on appelle le numéro IMEI, que l'on trouve en faisant étoile dièse 06 dièse sur son téléphone ou qu'on trouve aussi sur son coffret d'emballage ou sous la batterie de son téléphone. C'est la clé, en fait, pour réussir à enrayer le vol des mobiles. Alors, si donc vous êtes fait voler, et malheureusement, il y a quand même 28% des vols avec violence, et bien, le premier geste que vous allez faire, c'est d'appeler votre opérateur pour bloquer votre ligne, parce que ça touche directement à votre porte-monnaie. Ce n'est pas suffisant, il faut ensuite aller porter plainte à la police et envoyer le récépissé de plainte à votre opérateur, parce qu'ainsi, vous allez bloquer le mobile sur l'ensemble du territoire français, ce qui veut dire que le voleur peut toujours essayer de mettre une autre carte SIM, ça ne marchera plus jamais sur notre territoire.
Voilà.
Et à terme, ça va se passer au niveau mondial. Ce qui fait que si vous faites bloquer votre mobile, par exemple, pendant le mondial de foot, là, en ce moment, eh bien, il sera bloqué également en Allemagne, mais peut-être donc sur l'ensemble du territoire européen. Ça devrait voir le jour sous 2-3 ans. C'est un problème de maturité des opérateurs mondiaux.
Alors, autre sujet lié à l'actualité. Après le vol de téléphone mobile, vous vous attaquez maintenant à la sécurité routière et vous avez annoncé aujourd'hui, avec le gouvernement, des mesures radicales concernant l'usage du téléphone portable dans l'auto. Je crois que vous déconseillez le fait de téléphoner. Ça, c'est pas nouveau, mais même avec un kit main libre ou avec un kit piéton.
Voilà, notre idée, c'est effectivement d'abord, d'une part, de rappeler la réglementation qui interdit de téléphoner avec un téléphone tenu en main. Et puis ensuite, d'indiquer que dès que l'on monte dans sa voiture, il faut se mettre sur messagerie de façon à ne pas répondre aux appels et garder toute son attention concentrée sur la route. Et puis si on veut rappeler ou écouter ses messages, s'arrêter dans un lieu sûr. Et puis évidemment, ne pas utiliser les fonctions SMS, MMS, email et multimédia du téléphone mobile quand on est au volant. Donc que des conseils de bon sens, mais qui nous paraissent importants.
Mais alors là, c'est la solution radicale, c'est ne touchez plus à votre téléphone, même avec un kit main libre ou une oreillette, dès que vous êtes en voiture, c'est bien ça.
C'est passé sur messagerie, effectivement.
Mais ce sera autoritaire, obligatoire ? Est-ce qu'il y aura des sanctions ? Est-ce qu'on peut se faire arrêter par la police si...
On téléphone avec un kit main libre, par exemple ?
Non, mais justement, il s'agit surtout de ne pas être répressif. Il y a une réglementation, ça c'est le téléphone tenu en main. Par ailleurs, on recommande aux gens d'être vigilants. C'est important d'être concentré sur la route. On sait très bien que tout ce qui peut perturber l'attention, hein, que ce soit manger un sandwich, parler à son passager, changer son poste de radio, peut accroître le risque d'accident. Donc c'est à ce titre de responsabilité que les opérateurs ont pour tous ces utilisateurs équipés 8 Français sur 10 de mobile, qu'ils conseillent de passer sur messagerie parce que ça accroîtra donc leur sécurité.
Ça doit être difficile quand même pour les opérateurs de téléphonie mobile de dire téléphonez moins, non? Parce que c'est quand même un peu contraire à un message commercial qu'on a l'habitude d'entendre.
Mais on ne leur dit pas téléphonez moins, on leur dit passez sur messagerie, et on pense que c'est vraiment de notre responsabilité par rapport à nos clients. Je crois que les opérateurs français sont des gens matures, notamment par rapport à d'autres pays d'Europe, puisque là il s'agit de la plus grande mobilisation en Europe sur ce thème téléphonie mobile et sécurité routière.
Il y a un petit coup de téléphone pour finir.
Voilà. Il y a eu un pet comme ça là qui est arrivé.
Bon, alors François, c'est fini, on pourra plus se téléphoner pour préparer dialogue par téléphone en conduisant.
Dans les embouteillages, c'est ça?
Oui. En fait, t'as compris, donc ce n'est pas autoritaire, il n'y aura pas de loi interdisant de téléphoner au volant, mais c'est juste...
Des conseils, une campagne de sensibilisation.
Mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite finalement?
Oui, d'autant que certains pays européens vont plus loin, hein. Par exemple en Espagne, le port de l'oreillette en fait est complètement proscrit. Hein. Ouais. Donc là-bas, si on se fait attraper avec une oreillette en train de téléphoner, eh bien on a une amende.
Ouais. Alors cela dit, il paraît qu'il n'y a aucune étude prouvant que l'usage du téléphone portable provoque des accidents de voiture. À ce jour, il paraît qu'il n'y a aucun chiffre.
Oui, mais en tout cas, aucune étude ne prouve aussi que ça ne provoque pas des étourderies chez les conducteurs. On les voit tous les jours. Hein.
C'est possible, effectivement.
Dialogue, la chronique des nouvelles technologies.
François, j'ai une bonne nouvelle, tu vas enfin pouvoir avoir ton nom de domaine, tu sais, pour ton blog où tu racontes tes nouvelles érotiques, là.
Ah oui, d'accord, celle que tu lis tous les jours, d'ailleurs,
oui.
C'est bien celle-là.
Si un jour tu avais envie de créer un blog avec des nouvelles érotiques.
Donc françoissorel.fr, en gros, c'est
par
ça.
Par exemple.
Et ça, c'est au point, ça y est, ça fonctionne?
Donc ça y est, depuis le 20 juin, le .fr est ouvert aux particuliers.
Il y a encore quelques jours, si j'avais envie d'ouvrir un françoissorel.fr ou un jérômecolombin.fr, je ne pouvais pas le faire.
Non. Ça n'était pas autorisé pour les particuliers, seules les entreprises ou les collectivités locales avaient droit à leur domaine en .fr. Donc c'est une nouveauté, ça peut intéresser des tas de gens qui ont des blogs, qui ont des sites perso, des sites familiaux, de la généalogie, que sais-je encore. Il y a tellement de particuliers déjà qui ont ouvert des sites en .com, .net, .org.
Donc là, l'aspect commercial est nul. On n'est pas obligé d'avoir une entreprise pour créer son .fr.
Pas du tout, c'est vraiment pour les particuliers à titre personnel.
Alors comment ça marche? Je veux créer mon .fr par exemple.
Alors, il faut bien distinguer le nom de domaine en .fr et puis le site web. Tu peux très bien acheter ton françoissorel.fr et ne pas créer de site. Tu comprends ce que je veux dire? C'est deux choses différentes.
D'accord.
Comment ça marche? Eh bien, tu dois aller consulter un registrar, on appelle ça comme ça. Donc, ce sont des tas de sociétés sur Internet, il y en a plein.
C'est une espèce d'annuaire qui recense en fait tous les noms de domaines existants, c'est ça?
Alors, le registrar, c'est vraiment l'intermédiaire auprès duquel tu vas payer pour que lui-même déclare auprès de l'AFNIC, qui est l'organisme français qui s'occupe de la gestion des noms de domaine en .fr et qui va t'attribuer ton domaine en .fr. C'est l'intermédiaire et c'est là où tu dois payer.
Ah, donc tu payes. Tout ça n'est pas gratuit.
Tout cela n'est pas gratuit et c'est même un petit business qui se porte bien. Ça coûte quelques euros par an. C'est pas énorme. C'est moins de 10 euros par an.
Mais... C'est comme un bail en fait. Est-ce que tu achètes vraiment l'adresse ou est-ce que tu la loues?
Non, tu dois la renouveler tous les ans parce que sinon n'importe qui d'autre peut te la prendre. C'est tout le problème du cybersquatting.
D'accord. Et évidemment, c'est le premier qui est le mieux servi.
C'est le premier arrivé.
Si une autre personne s'appelle... j'ai un homonyme, par exemple, qui s'appelle François Sorel.
Ce qui peut arriver.
Voilà. Donc, il a été plus rapide que moi. Moi, après, je ne peux plus, bien
exactement,
évidemment, déposer le même nom.
Où il y a encore le cas de particuliers qui ont un nom de famille qui est également une marque. Tu vois, genre Monsieur Dupont.
Oui, bien sûr.
Il y a des marques très connues qui s'appellent Dupont. Donc, dans ce cas-là, il y a litige. Et à ce moment-là, il n'y a pas de règle toute faite. C'est donc la règle du premier arrivé, premier servi. Et ensuite, s'il y a plusieurs personnes qui veulent le même nom, certaines procédures sont d'ores et déjà envisagées. On proposera par exemple aux particuliers de déclarer son prénom point son nom.
Ah oui, on peut trouver
des
arrangements,
des
astuces comme
voilà.
Ça. D'accord.
Dialogue, François Sorel, Jérôme Colombin.
Ah, Jérôme, il y a Jack Bauer qui vient de t'envoyer un SMS, semble-t-il.
Oui, alors attends, ben non, c'est une pub.
Ah, Et tu reçois des publicités sur ton téléphone mobile, toi, maintenant.
De plus en plus.
Ouais. Tu es victime du marketing mobile, Jérôme.
Et oui, il faut dire que j'ai donné mon accord. Donc,
là, à ce moment-là...
Je ne peux rien dire, je ne peux pas me plaindre.
Ces SMS publicitaires peuvent parfois te permettre d'avoir des petites réductions dans certains magasins ou avoir des offres spéciales.
En tout cas, ça excite beaucoup les annonceurs qui ont compris qu'il y avait là un nouveau support très attractif, direct, pour toucher les consommateurs.
Et on va en parler de marketing mobile avec notre invité. Il s'agit d'Alexandre Mars, qui est directeur général de la société Phone Valley, qui est spécialisée justement en marketing mobile. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de campagne marketing sur mobile ?
Si nous prenons la dernière campagne effectuée en vidéo pour la campagne Terceo, qui était BNP Paribas, vous vous en souvenez certainement, elle est beaucoup passée à la télévision ces dernières semaines. Donc le spot que vous voyez à la télévision a été envoyé, un peu retouché pour qu'il puisse être parfaitement adapté aux différents téléphones portables, a été envoyé à des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient ainsi, directement sur leur mobile, à des moments qui ont été choisis par l'annonceur, recevoir cette très belle campagne sur leur téléphone mobile.
Bon, donc on voyait la James Bond Girl sur son téléphone mobile, c'est ça ?
Exactement.
Ah oui, et donc c'est plutôt un atout, elle est très jolie en plus.
Elle est jolie et c'est vrai que c'est aujourd'hui de plus en plus d'annonceurs qui trouvent l'intérêt justement de communiquer parce que quand on est à l'heure du déjeuner, dans l'après-midi, enfin des moments qui vont être très spécifiques, vous êtes certainement beaucoup plus attentif, d'autant plus si vous avez accepté de recevoir l'information sur votre portable pour recevoir l'ensemble de ces informations.
Ah, vous faites attention à l'heure à laquelle vous envoyez le message ?
L'heure à envoyer ce message est très terriblement importante. C'est un petit peu comme à la télévision quand vous choisissez votre horaire de spot télé. Aujourd'hui, selon les annonceurs, ils vont trouver un intérêt pour l'envoyer plutôt en fin de matinée, le mercredi ou le samedi. Enfin, c'est la journée et c'est l'heure qui est importante pour les annonceurs.
Alors, est-ce qu'on peut pas apparenter ce genre de publicité qui arrive comme ça sur son mobile à du spam ?
On peut tout à fait arriver à cet amalgame-là. Alors, je vous poserai la question, c'est souvent la question qu'on pose à nos clients. Est-ce que vous en avez déjà reçu d'une manière justement non acceptée ? La réponse est souvent négative.
Sauf de la part de son opérateur qui
ne se gêne pas de nous envoyer
des SMS comme ça sans qu'on lui demande si on en veut ou pas. Hein.
Parce qu'il considère que vous êtes déjà son client. Mais aussi non, si on met de côté les trois différents opérateurs qui, c'est vrai, utilisent et essayent de faire du CRM, essayent de développer leur base clientèle, aujourd'hui, il faut que vous ayez donné votre accord, ce qu'on appelle de l'opt-in, qui est un accord préalable pour recevoir de l'information publicitaire. Il y a une loi là-dessus, c'est très encadré, une loi qui est sortie en décembre 2004, qui s'appelle la LCEN, qui oblige aujourd'hui quelconque annonceur de faire attention et d'envoyer de l'information publicitaire uniquement à des gens qui ont au préalable accepté cette information-là.
Alexandre Mars, il y a un système de publicité sur mobile dont on parle depuis très longtemps qui serait la publicité géolocalisée. C'est-à-dire, par exemple, je passe devant un magasin, il y a une promotion à ce moment-là, tac, je reçois un SMS pour me dire « Entrez donc dans ce magasin puisque vous êtes devant et vous allez voir, il y a plein de bonnes affaires ». Alors, où en est-on de cette publicité géolocalisée en France ? Vous en faites ?
Vous avez raison, Jérôme, là, sur ce point-là, c'est un petit peu une sorte d'arlésienne sur notre marché, parce qu'aujourd'hui, personne n'en fait, personne ne peut en faire, les opérateurs ont cette information, mais aujourd'hui ne la délivrent pas, certainement à dessein, parce qu'ils ont assez peur qu'elle puisse être, après, une certaine dérive de ce marketing géolocalisé. Donc aujourd'hui, la seule manière d'être géolocalisé, c'est que si au préalable, vous avez accepté dans une zone de chalandise, exemple, vous êtes sur un site internet mobile, un site web, et vous cherchez un restaurant près de votre zone, et là, vous avez la capacité de dire « oui, j'accepte d'être géolocalisé », et ainsi de suite. Et ainsi, vous allez pouvoir avoir les informations du restaurant près de l'endroit où vous êtes. En revanche, en push, en mode actif, aujourd'hui c'est interdit, et évidemment, l'idée de faire envoyer un SMS par McDonald's quand vous allez passer devant chez lui à 11h30 parce qu'il n'y a personne dans les files pour avoir un Big Mac gratuit n'est totalement impossible aujourd'hui, les opérateurs ayant cette information mais ne voulant pas la délivrer.
Bah merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de ce dialogue. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine, François.
Enfin, cela dit, Jérôme, un hamburger gratuit grâce à un SMS, moi je suis pas contre. Hein.
Oui, mais t'es pas abonné. Puis en plus, t'es au régime.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça.
Bon, la semaine prochaine, donc.
Spécial Google.
Voilà.
Dans Dialogue.
Enfin.
Nous aurons donc le directeur général de Google France qui sera avec nous. Donc on a un peu bousculé les meubles à cette occasion.
Oui, c'est vrai que Google est omniprésent dans la vie des internautes aujourd'hui. Alors on fera un peu un tour d'horizon avec Mats Gardiner.
Donc rendez-vous pour ce dialogue exceptionnel. Ce sera mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.
À bientôt.
Retrouvez Jérôme Colombin et François Sorel dans Dialogue tous les mardis sur Cisco.fr.